L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale.
L'idéal de la femme blanche, hein, séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler, je crois bien qu'elle n'existe pas.
Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarca, patrie, patriarca,
patrie. Et donc, nous sommes dans une nouvelle émission de Sortir du patriarcat capitalisme, autour aujourd'hui du féminisme antivalidiste et plus spécifiquement des mouvements CRIP. Et pour en parler, nous sommes justement avec Charlotte, militante CRIP, psychologue et docteur en philosophie. Donc bonjour Charlotte.
Bonjour, merci de m'avoir invitée.
Alors du coup, première question qui vient à l'esprit quand on entend voilà, ce mot mouvement CRIP. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire CRIP? Et en quoi est-ce que le mouvement CRIP articule des dimensions à la fois féministes et antivalidistes?
Alors, le mouvement CRIP, c'est un mouvement qui naît autour des années 2000, dans un processus de retournement du stigmate, voilà, à la même image que le mot queer, CRIP, c'est une réduction de cripple, qui veut dire estropié, boiteux, donc c'est plutôt un mot négatif, une injure vis-à-vis des personnes concernées. Donc l'idée, c'est dans le mouvement CRIP de se réapproprier cette image stigmatisante, comme ont pu le faire les personnes queer. Alors le mouvement CRIP, c'est un mouvement qui naît autour des années 2000, à travers des universitaires, des militants. On peut citer par exemple Christopher Bell, qui a été un des premiers théoriciens, mais notamment aussi Robert McCreer, qui est le premier à utiliser la notion de théorie CRIP, qui est du coup le titre d'un de ses livres. Ensuite, il y a aussi Alison Kay, Meredith Johnson, Anna Molo aussi, des artistes, la troupe de Silicon Valley, de Laurie Erickson qui est à la fois universitaire et actrice porno, pour citer quelques noms de militants, militantes CRIP. Et donc l'idée de ce mouvement, c'est de en fait sortir un peu du premier mouvement des personnes handicapées qui a émergé au début des années 60-70 aux États-Unis, en Angleterre notamment, et de proposer un mouvement qui soit vraiment intersectionnel et qui du coup sorte de la suprématie blanche tenue par des hommes, cisgenres, hétéros. C'est des personnes handicapées qui se retrouvent pas dans ce premier mouvement de personnes handicapées parce que voilà, elles sont trans, elles sont homo, elles sont femmes. Et du coup, grâce aux apports du queer, elles repensent la notion d'handicap et créent le mouvement queer.
Peut-être est-ce que tu pourrais revenir sur le premier mouvement antivalidiste des années 60 pour bien montrer à quel point il se distingue notamment sur sa définition du handicap des mouvements CRIP des années 2000.
En fait, le premier mouvement de personnes handicapées, c'est la base d'un nouveau paradigme sur la compréhension du handicap. Donc c'est vraiment aussi quelque chose sur lequel s'appuie le mouvement CRIP. Mais c'est quelque chose sur lequel le CRIP va aller plus loin et sortir de certains enfermements, voilà, comme je disais, liés au genre, aux sexualités non normatives, etc. Mais donc du coup, ce premier mouvement de personnes handicapées, c'est ce qu'on appelait le mouvement pour les droits civiques, dans la même lignée hein, en fait que celui des personnes noires. C'est vraiment de la même inspiration. C'est l'idée d'acquérir ses droits, en fait, de sortir des institutions spécialisées. C'est vraiment les deux grosses revendications de ce premier mouvement. Parce qu'à l'époque, les personnes handicapées sont d'emblée enfermées dans des institutions spécialisées, sont exclues totalement de la société, de droits civiques. Donc, les combats de ce premier mouvement, c'est ça. Et du coup, ça a été notamment récemment proposé à l'écran dans le documentaire Quick Camp, qui parle vraiment de ça, en fait, de ce premier mouvement. Mouvement des personnes handicapées, de sa genèse. Donc c'est paradoxal parce que ce documentaire qui est super génial, je le conseille à tout le monde. Pour la petite anecdote, j'utilise le mot creep alors qu'en fait, c'est un documentaire sur le premier mouvement des personnes handicapées. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le mot creep est un peu rentré dans le milieu militant handi, voilà, comme un mot fort, revendicateur. Donc, il est utilisé surtout aux États-Unis de façon plus fréquente par toutes militantes handi. Mais donc, ce documentaire parle vraiment du premier mouvement des personnes handi. Et du coup, donc, ce premier mouvement, il a porté le modèle social du handicap, qui est une notion clé vraiment dans l'histoire du handicap, parce que c'est un modèle qui s'oppose au modèle alors en place, qui est le modèle médical du handicap. Donc, pour faire deux petites définitions très brèves, le modèle médical du handicap, c'est vraiment en fait une vision individuelle, c'est-à-dire on attribue le handicap à une personne, un corps, et on voit en fait cette personne comme ayant eu une destinée tragique. On parle souvent de ça, de destin tragique, de vie brisée, qu'en gros quelque chose qui ne dépend pas de la société, qui est de l'ordre d'un destin individuel sur lequel donc la société n'a pas de prise. Et au final, elle, ce qu'elle propose entre guillemets, c'est de réparer cette injustice via des centres de rééducation, via tout un panel de dispositifs médicaux, et si cette réparation n'est pas possible, d'envoyer les personnes dans des centres de vie spécialisés totalement exclus de la société. Donc ça, c'est le modèle médical. Et donc le modèle social, lui, qui apparaît via ce premier mouvement des personnes handicapées, il vient totalement à l'opposé de cette vision, puisqu'il propose, lui, en fait, de dire que le handicap, c'est une construction environnementale et sociale. C'est-à-dire qu'une personne, elle est avant tout handicapée parce que la société ne lui offre pas les aménagements nécessaires, lui met des obstacles par rapport à ses propres capacités. Donc voilà, c'est ça qui crée le handicap, en fait. Donc, changement total de paradigme, puisque du coup, la société est responsable, en fait, de la mise en situation de handicap des personnes et peut agir dessus par des choix politiques, sociaux. Donc c'est vraiment un changement total de paradigme. Après, pour nuancer un tout petit peu cette vision qui reste essentielle, hein, c'est vraiment le modèle social, c'est vraiment la base, comme je disais, de la nouvelle compréhension du handicap qui émerge alors et qui est encore d'actualité aujourd'hui. Mais juste pour apporter une toute petite nuance, certains et certaines militants, militantes ont quand même évoqué le fait que il fallait pas totalement nier la place du corps. Personne n'en dit, parce que voilà, il y avait des réalités corporelles telles que des douleurs, des souffrances, voilà, de la fatigue chronique, voilà, des choses qui sont des réalités corporelles. Donc c'est quand même important de ne pas totalement occulter la question du corps, mais par contre, il est toujours question de la politiser. C'est-à-dire que même si, bien sûr, le corps, c'est important de le replacer dans la question du handicap, c'est aussi essentiel de voir comment ces questions de fatigue, de douleur sont gérées politiquement. Et c'est-à-dire, quelles barrières on continue à mettre à ces personnes qui accentuent encore plus leur fatigabilité, leur douleur, comment on les traite administrativement parlant, pour donner un exemple plus concret, qui est souvent une source de fatigue énorme, hein, parce que la question administrative du handicap, c'est une question trop complexe, qui est source de beaucoup de fatigue. Donc il y a toujours quand même une question politique derrière de la façon dont on gère ces questions-là. Donc le modèle social, il est associé à tout un champ académique qui s'appelle les disability studies, traduit en français par les études sur le handicap, qui développe toutes ces idées de construction environnementale du handicap.
Oui, du coup, ce qui change entre ce modèle social du handicap et le mouvement CRIP, c'est plusieurs choses, si j'ai bien compris. C'est d'une part le fait de pas tomber non plus dans une forme de constructivisme complet, dans le sens où il faut prendre en compte certaines souffrances, tout comme par exemple la différence peut-être entre le mouvement anti-validiste aujourd'hui, anti-psychophobie, peut dire qu'il faut prendre en compte la souffrance psychique de certaines personnes et pas tomber peut-être dans l'hyperconstructivisme de l'antipsychiatrie des années 70 qui faisait finalement, qui pouvait tendre finalement à nier certaines souffrances psychiques de certains individus. Et une autre différence, j'ai l'impression, ce serait sur le fait que si d'un côté ça paraît moins constructiviste, dans le sens où ça prend plus en compte ces souffrances, d'un autre côté, il y a aussi une autre manière de contester le validisme, par exemple en cassant, disons, la binarité entre les valides et les non-valides, et en disant que finalement, Et ça, ça fait penser aussi à des textes de Donna Haraway, que finalement, cette dichotomie entre valide et invalide, elle n'est pas si absolue qu'elle en a l'air, et que pourquoi est-ce qu'on considère certaines personnes comme valides, alors par exemple qu'elles sont myopes, etc. Et pourquoi est-ce qu'on va considérer quelqu'un qui est en fauteuil comme invalide? Donc est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces différentes modalités, disons, de contestation du validisme et sur cette manière aussi de, disons, d'appréhender cette division hiérarchique entre valide et invalide qui est la base du validisme?
Oui, alors du coup, pour reprendre ce que tu dis, donc le mouvement CRIP, il s'appuie vraiment sur le modèle social. C'est vraiment un apport essentiel, encore une fois, dans tous les mouvements antivalidistes CRIP qui ont suivi par la suite. Après, la spécificité du mouvement CRIP, c'est que il se nourrit d'autres apports qui viennent questionner justement certains points du modèle social, donc celui qu'on a évoqué tout à l'heure, qui viennent pointer quand même quelques difficultés, quelques problèmes. On a évoqué le fait que ce soit des mouvements tenus par des hommes blancs, cis. Voilà, on a évoqué le fait de la mise de côté du corps. Bon, c'est un mouvement qui vient questionner ça, mais tout en gardant les apports indéniables du modèle social. Donc le CRIP, lui, il s'appuie de l'autre côté beaucoup sur le queer. C'est vraiment l'autre grand pendant qui le nourrit. Et du coup, oui, cette question de la non-binarité entre handicap et valide, elle s'appuie sur les développements théoriques féministes et puis queer, sur les questions, la notion de la binarité entre hommes et femmes. Elle s'appuie là-dessus. Alison Kaffer, par exemple, en parle dans son livre Féministe Queer Crip, où elle explique justement comment ces lectures féministes, cette déconstruction du genre, cette déconstruction de la binarité homme-femme, a nourri sa déconstruction de la binarité handicap valide. C'est des apports féministes queer qui viennent nourrir les questions crip et qui expliquent qu'en fait, le handicap et la validité, c'est pas deux entités séparées, c'est quelque chose qu'on peut comprendre comme un continuum, en fait. C'est-à-dire que chacun, chacune est plus ou moins handicapé, plus ou moins valide, à des degrés divers, mais que ça fonctionne vraiment ensemble et que voilà, il n'y a pas à opposer les deux identités. C'est vraiment un des grands apports de la pensée queer.
Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque en relativisant cette binarité? Alors certes, elle a l'avantage du coup finalement de dénaturaliser radicalement finalement l'opposition entre valide et non valide, mais est-ce qu'elle ne peut pas avoir, disons, comme effet pervers de finalement de relativiser cette binarité en tant qu'elle est le reflet d'une construction sociale hiérarchique qui, disons, débouche sur la discrimination des personnes handicapées, qui assigne des handicapés à un statut inférieur dans la société? Et est-ce que finalement, du coup, relativiser la binarité entre valide et non valide, ça ne peut pas risquer aussi de relativiser finalement l'importance du validisme ou l'importance finalement d'une lutte qui viserait l'abolition du validisme?
Moi, d'après ce que j'ai pu étudier, c'est vrai que cette question, en fait, de vraiment créer des identités séparées handicap-valide, c'est un petit peu ce qui s'est fait lors du premier mouvement des personnes handicapées, justement, où il y a eu ce fort désir d'inscrire une identité handicapée pour justement revendiquer des droits spécifiques qui étaient liés à cette identité. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui s'est fait dans l'histoire du mouvement, mais qui, justement, a abouti à des dérives. Et c'est pour ça, notamment, que le CRIP s'est tourné vers un autre positionnement, et notamment, par exemple, tout ce qui est handicap invisible. Toutes les personnes qui ont des handicaps invisibles ont été complètement exclues justement de l'identité handicapée telle qu'elle avait socialement été construite autour des années du premier mouvement des personnes handicapées. Et on s'est rendu compte que figer les identités, c'était quelque chose de néfaste, parce que on l'a vu notamment par exemple aux États-Unis, en fait, beaucoup de personnes handicapées qui avaient demandé notamment des aménagements spécifiques à leur travail, c'était vu refuser ces aménagements, non pas du tout parce qu'ils n'étaient pas possibles à faire, des fois c'était des choses très simples, hein, mais ils s'étaient vu refuser parce qu'ils ne rentraient pas dans la catégorie des personnes handicapées, en fait, telle que c'était défini dans la loi états-unienne. Donc en fait, on voit que figer trop les identités, ça met à la marge énormément, énormément de gens. Et du coup, c'est néfaste pour le mouvement en soi, en fait. Et c'est un peu contre, enfin, beaucoup même contre ça que lutte le mouvement queer, en essayant justement d'élargir la notion d'identité handicapée et de montrer qu'elle peut toucher beaucoup plus de personnes que ce que la société a imposé comme cadre, et que justement cette imposition du cadre, il est source de beaucoup, beaucoup de validisme, parce que voilà, il rejette les personnes qui sont dans des réelles difficultés, dans des réelles incapacités de s'adapter à la société telle qu'elle voudrait qu'elle s'adapte, ou qu'elle s'adapte, et qui du coup se voit complètement mis à la marge, parce qu'en même temps, dans l'impossibilité de pouvoir performer la validité, mais en même temps rejeté aussi de la catégorie des personnes handicapées.
Sur les revendications, notamment féministes, d'accorder par exemple des jours de congé pour les femmes qui souffrent de douleurs pendant leurs règles, est-ce que ça renforcerait pas aussi dans l'ambition de...
Après, pourquoi pas, hein. Moi, je pense que aussi la lutte ouais, anti-validiste, c'est pouvoir sortir des carcans médicaux dans lesquels on nous a mises. Voilà, le validisme, c'est avant tout une non-correspondance à des normes médicales. Donc, qui du coup établit ces termes de la validité, c'est-à-dire des capacités naturellement attendues d'un corps pour qu'il soit considéré comme humain. Voilà, là on touche aussi une question centrale, c'est à qui on accorde en fait le crédit d'humanité. Donc voilà, c'est après la question des capacités, elle est centrale dans le validisme. C'est aussi pour ça qu'on parle du capacitisme des fois, parce que c'est l'étalon en fait de la capacité sur laquelle le système médical se fixe en disant bah, tel corps doit avoir telle capacité pour être considéré comme valide et donc sous-entendu comme humain, quoi.
Oui, et est-ce que du coup, on ne pourrait pas, disons, combiner cette approche peut-être plus inclusive du validisme et de la lutte contre le validisme, qui inclut donc les personnes qui souffrent d'un handicap invisible ou qui ne sont pas considérées par la société comme invalides, mais qui peuvent souffrir d'une forme d'inadaptation à la société telle qu'elle est. Certains essayent de penser l'idée que finalement il y aurait un validisme, disons au sens restreint, qui serait vraiment cette oppression des personnes qui sont catégorisées par la société comme handicapées et qui vivent quand même des oppressions spécifiques par rapport à des personnes qui souffrent du validisme au sens large cette fois-ci, mais qui ne sont pas pour autant considérés par la société comme handicapés et qui donc finalement souffrent du validisme mais d'une manière un peu différente. Est-ce que ce ne serait pas intéressant du coup de penser ensemble un validisme au sens restreint, finalement qui correspondrait peut-être plus au modèle social du handicap que tu évoquais, même si du coup il faudrait évidemment que ce modèle social du handicap soit plus inclusif vis-à-vis des personnes considérées comme handicapées mais n'étant pas pour autant blanches, cis, masculines, etc. Et d'un autre côté, un validisme au sens large qui correspondrait plus peut-être là aux luttes très spécifiques du mouvement CRIP. Est-ce que ce serait pas possible finalement d'articuler ces deux luttes contre le validisme défini de manière un petit peu différente à chaque fois?
Après, je ne sais pas si on peut vraiment séparer les deux formes de validisme, parce qu'au final, le point central, c'est quand même l'utilisation des critères médicaux pour juger ce qu'il y a un bon corps, un mauvais corps. C'est toujours la question de comment le pouvoir médical agit, en fait, et comment il considère les corps. Le validisme a été utilisé dans certains cas pour discréditer les femmes, les personnes noires. Mais toujours du coup sur des critères médicaux, en disant que voilà, il y avait une incapacité, toujours cette question de la capacité voilà, des femmes à faire certaines choses, des personnes noires à faire d'autres choses. Donc après, oui, il y a des points communs, mais en fait, au final, ça revient toujours un peu à la même question, c'est comme je dis, c'est celle de l'usage du pouvoir médical, en fait, sur leur possibilité de qualifier qu'est-ce qui est un bon corps, qu'est-ce qui est un mauvais corps. Et du coup, quelle personne peut être considérée comme humaine ou non, quoi.
Mais ce que tu disais, c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser au développement, notamment des personnes qui luttent contre la grossophobie et qui justement luttent contre à la fois, notamment le pouvoir médical qui leur fait comprendre que leur corps est incapable ou qu'il est mauvais ou en tout cas pas acceptable de manière générale. je trouve qu'il y a vraiment des liens très forts, j'ai l'impression, entre lutte contre la grossophobie et lutte contre le validisme. Et on le voit d'autant plus que, au point de vue légal, il y a de plus en plus d'actions de personnes grosses ou obèses qui demandent à ce que l'obésité, qui est reconnue dans un pays comme une maladie, puisse les permettre de les protéger contre justement les discriminations subies, notamment dans le cadre de leur emploi. Et je trouve que c'est une question assez intéressante.
Il y a vraiment un point central à beaucoup de ces oppressions. C'est comme tu disais, la surpuissance du pouvoir médical et sa capacité, justement, c'est le cas de dire, à dire qu'il y a un bon corps, qu'il y a un mauvais corps et qui peut être considéré comme humain et même. Oui, ça a un peu touché les questions de grossophobie, de sexisme, de racisme, de queer aussi, évidemment, bien sûr, parce que voilà, il y a quand même eu aussi toute cette pathologisation des personnes ayant des sexualités déviantes, toutes les questions de la transidentité, etc. Donc le pouvoir médical, il est central, la question du pouvoir médical, elle est centrale au validisme, et elle peut largement recouper d'autres formes d'oppression, même si ces autres formes d'oppression ne se réduisent pas du coup à cette question, et touchent d'autres points, mais elle est présente aussi, oui.
Et du coup, puisqu'on parle beaucoup là du rapport au pouvoir médical, quelles sont les différences dans ce rapport au pouvoir médical entre le modèle social du handicap et le mouvement CRIP ? Parce que j'avais l'impression que, en t'écoutant, que le mouvement CRIP, finalement, d'un côté, se défiait complètement finalement de la reconnaissance médicale du handicap, où on rangerait les individus entre handicapés et valides. Mais d'un autre côté, il y a une volonté aussi que les souffrances soient reconnues, alors que dans le modèle social, c'est un peu l'inverse, j'ai l'impression, dans le sens où finalement, on minimisait finalement la part de souffrance et donc finalement la nécessité objective, entre guillemets, d'être pris en charge par l'institution médicale, ce qui finalement lui donnerait moins de prise au pouvoir médical. Mais d'un autre côté, il y avait une demande de reconnaissance de la part des pouvoirs publics et donc j'imagine aussi quand même des institutions médicales qu'on les reconnaisse comme handicapés avec à la clé des droits spécifiques, ce qui voulait bien dire qu'il y avait bien quelqu'un qui allait les reconnaître comme handicapés. Et en général, on sait que, comme pour la transidentité, en général, c'est les médecins qui vont catégoriser les individus comme handicapés ou valides pour donner des droits ou ne pas en donner spécifiques donc au handicap.
Oui, mais justement, donner de ce pouvoir aux médecins, je pense que c'est un sujet qui mériterait d'être réfléchi et pensé dans les mouvements, et ça commence un peu, c'est ce que fait le CRIP. Pourquoi ce sera un médecin de décider qui est handicapé ou qui ne l'est pas? Après, voilà, il y a de plus en plus de personnes qui s'autodiagnostiquent. La question de l'autodiagnostic, elle est de plus en plus présente aussi dans les mouvements handis. Parce que justement, au final, les médecins, leur définition du handicap découle de la vision sociale, médicale du handicap qu'on a, et avec des normes très, très balisées, comme on l'a dit. Et du coup, donc beaucoup de personnes sont exclues, alors que pourtant, il y a des réelles difficultés physiques, psychiques, qui sont là et qui, du coup, provoquent un schisme entre la société et la personne. Donc, après, je vais dire, c'est malheureusement, on vit dans une société qui donne beaucoup de pouvoir au médical. Donc oui, forcément, les personnes qui veulent aujourd'hui être reconnues handicapées, même les personnes les plus militantes, malheureusement, elles vont se confronter à une réalité sociale concrète, quoi. C'est-à-dire que si elles veulent être reconnues, il faut qu'elles passent par un médecin. Donc oui, elles vont devoir affronter ce pouvoir médical. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas justement remettre en cause et penser à d'autres alternatives que de devoir toujours passer par le médical pour définir le handicap, quoi.
C'est marrant parce que c'est effectivement, comme tu disais, c'est les mêmes problématiques que rencontrent les personnes trans, et notamment en ce moment, il me semble que en Angleterre, la grosse question, c'est celle de l'auto-certification, c'est-à-dire de justement pour que les personnes trans n'aient plus à être certifiées trans par un psychiatre très souvent transphobe, mais justement n'aient plus qu'à remplir un formulaire d'auto-certification. Finalement, effectivement, on retrouve vraiment les mêmes problématiques.
Parce après, ce que je n'ai pas forcément dit aussi, c'est que le modèle médical, il s'appuie beaucoup sur le christianisme. La charité, dans l'histoire du handicap, avant même le modèle médical, c'était le modèle caritatif sur lequel le modèle médical s'est formé. Cette idée de charité aussi. Du coup, les personnes ne sont pas du tout sujet de droit dans ce modèle. Elles sont complètement objet de soins, d'attention, de charité, de ce que vous voulez, quoi. Mais elles ne sont pas du tout considérées comme des sujets.
Finalement, elles sont aussi très passives, dans le sens où elles reçoivent un traitement sans pouvoir faire des choix, finalement, comme réduites à l'enfance.
Exactement, sans... bah oui, les personnes handicapées sont beaucoup infantilisées. C'est aussi souvent ce qui est ressorti quand on parle de, par exemple, de la sexualité des personnes handicapées, qui est un peu un sujet à la mode en ce moment. Parce que oui, la première chose qu'on entend souvent, c'est les personnes handicapées sont des personnes infantilisées. On ne leur donne pas de sexualité, on ne les sexualise pas. Mais voilà, c'est ça, c'est encore un sujet où on pourrait dire beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup aussi d'incohérence un peu sur ce sujet, voilà, à la fois des personnes handicapées qui seraient infantilisées, désexualisées, etc., mais pourtant les personnes handicapées et notamment les femmes handicapées sont quand même une des premières victimes de violences sexuelles, donc c'est assez paradoxal, mais au final, en y réfléchissant, ça s'explique voilà, parce que justement c'est des personnes qui sont déshumanisées et du coup agresser sexuellement une femme handicapée, c'est pas si grave que ça parce que c'est pas vraiment quelqu'un d'humain. Donc au final, personne ne dira trop quoi que ce soit, le prédateur sexuel sera tranquille. Et voilà, et c'est aussi le système des institutions en vase clos qui comment dire, permet ce genre de choses parce que les institutions spécialisées, c'est un peu des institutions en vase clos. Voilà, il y a pas, on l'a vu notamment pendant la crise du coronavirus, où c'est des endroits qui ont été complètement laissés de côté, où les directeurs, directrices des institutions étaient libres de faire comme bon leur semblait. Voilà, on peut facilement imaginer qu'il se passe des choses, même hors coronavirus, sur lesquelles la société n'a pas trop de regard, et c'est justement, mais ça l'arrange, c'est pour ça que ces institutions spécialisées existent, et c'est parce qu'on veut cacher des personnes qui correspondent pas, encore une fois, aux critères attendus d'un corps beau, valide, donc on cache les personnes qui correspondent pas à tout ça dans des institutions spécialisées.
Mais même, il me semble que même hors institutions spécialisées, ce qui est intéressant, c'est là les derniers chiffres sur les violences conjugales sont sortis et on se rend compte que même dans leur propre foyer, les femmes handicapées sont parmi les catégories sociales les plus touchées par les violences conjugales, pas forcément seulement entre guillemets des violences sexuelles, mais psychologiques, physiques, etc. C'est intéressant de voir que finalement la domination, bon, clairement on savait qu'elle n'était pas limitée aux espaces clos, mais intéressant aussi une approche intersectionnelle du coup du validisme, notamment en lien avec le féminisme, est clairement nécessaire, quoi.
Oui, bah, carrément. Oui, j'ai parlé des institutions, mais c'est aussi, t'as raison, hein. Les chiffres montrent qu'il y a aussi beaucoup de violence au sein des foyers des personnes elles-mêmes. Voilà, ça s'explique encore une fois par une grande précarité sociale, c'est-à-dire ces personnes, elles sont économiquement mises dans une très grande précarité. Il faut savoir quand même que voilà, une des revendications prioritaires des personnes handicapées depuis des décennies maintenant, qui n'a toujours pas abouti, c'est quand même de la non prise en compte des revenus du conjoint ou de la conjointe dans le calcul de l'AAH, c'est-à-dire de l'allocation adulte handicapé, qui est donc un minimum social qui est donné aux personnes handicapées. Et du coup, en fait, ce revenu, il est soumis au revenu du conjoint ou de la conjointe. Voilà, une personne qui va être financièrement dépendante de son mari ou de sa femme parce que elle a perdu son AAH à cause des revenus de son conjoint ou de sa conjointe, forcément, si elle est violentée, elle va réfléchir à deux fois avant de quitter son foyer parce qu'elle ne pourra pas le faire, en fait. Elle n'aura pas d'argent, elle n'aura pas de revenus. Donc, c'est une grande précarité économique pour beaucoup de personnes handicapées. Voilà, et puis après, même dans les foyers... par exemple, des femmes battues ou des choses comme ça, il n'y a pas de prise en compte ou très peu de prise en compte de la question du handicap et des femmes handicapées. Donc, pas d'accessibilité des locaux, pas d'interprète en LSF ou pas de personnes voilà, pouvant communiquer avec des personnes qui ont des handicaps psychiques, enfin voilà, tout un tas de choses qui ne sont pas du tout pensées, pas du tout faites dans les structures, voilà, par exemple, d'accueil pour les femmes victimes de violences. Tout ça fait que, oui, bah, les femmes handicapées subissent la violence parce que, bah, politiquement, socialement, elles sont énormément précarisées, quoi.
Oui, du coup, on comprend en tout cas vraiment l'importance d'une lutte intersectionnelle contre le validisme, qui critique le pouvoir médical et aussi le binarisme entre valide et invalide, tout en faisant en sorte qu'on parte des besoins spécifiques des individus qui peut-être n'étaient pas pris en compte suffisamment dans le modèle social. Donc on voit à quel point est-ce que les mouvements CRIP ont apporté quelque chose dans la lutte contre le validisme, en luttant contre le binarisme valide-invalide qui est au fondement finalement, de la naturalisation de la domination et de l'oppression validiste, et en même temps, tout en reconnaissant le fait que les individus, certains individus ont certains besoins qu'il faut prendre en compte socialement, tout en essayant de faire en sorte que ces besoins soient satisfaits selon les modalités des personnes elles-mêmes et pas selon les catégories binaires et figées et paternalistes du pouvoir médical.
C'est vraiment important, je pense, que, et encore plus chez les militants militantes, de prendre conscience qu'en fait, on peut agir par des choix sociaux, politiques, sur cette question du validisme. C'est vraiment, moi, c'est ce que j'ai perçu aussi, au fil du temps que j'ai milité. C'est que pour beaucoup de militants, militantes qui pourtant, voilà, étaient plutôt de sensibilité anti-oppressive, sur ces questions, étaient assez avancées. Mais au final, la question du validisme, elle est restée comme quelque chose de naturalisé, comme tu dis. C'est-à-dire un état de fait naturel sur lequel on ne peut pas agir. Et là, justement, je pense que ce qui est vraiment en train de changer en ce moment, et ce sur quoi on doit vraiment prendre conscience, c'est que si on peut agir dessus, on peut agir sur toutes ces pensées et ces actions validistes, on peut changer les choses. Et c'est vrai qu'on est dans une période où le validisme explose, avec cette question du coronavirus. Et ça se pose aussi dans les milieux militants, parce que voilà, il y a la question de comment continuer à militer en n'appelant plus forcément à se rassembler dans la rue. Parce que la rue est devenue vecteur de contagion, etc. Donc, comme on continue à militer en préservant la santé de toutes et tous, c'est aussi là une vraie question anti-validiste du moment actuel qui se pose beaucoup, en fait, qui montre à quel point on doit aussi changer nos pratiques militantes pour être, rester sur cette question du militantisme. Je pense que c'est vraiment possible de changer nos pratiques militantes pour essayer de les rendre accessibles à toutes et tous, et que c'est vraiment important de le faire.
Donc c'est une très bonne conclusion, et du coup on invite toutes celles et ceux qui voudraient en savoir plus à aller consulter ton site sur lequel on trouve des articles, ton dictionnaire et plein d'autres ressources justement pour penser et combattre le validisme dans une perspective notamment féministe intersectionnelle. Donc merci beaucoup Charlotte.
Merci à vous.
L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale.
L'idéal de la femme blanche. Séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler, je crois bien qu'elle n'existe pas.
Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarcat, patrie, patriarcat, patrie.